Les écolos en cavalcade.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Les écolos en cavalcade.
Bonjour Élodie.
Bonjour Fabien. Donc aujourd'hui, on va présenter une émission tournée autour de l'élevage bio. Donc en première partie, on va présenter le journal des bonnes nouvelles.
Ou ça dépend pour qui.
Et en deuxième partie, nous allons donc découvrir notre invité présent sur le plateau, Monsieur Yvan Leboulet.
Oui, bonjour.
Donc petit paysan sur le secteur de Montsol.
C'est ça.
Voilà. On attaque tout de suite sur la première partie, donc le journal des bonnes nouvelles.
Ça dépend pour qui.
C'est parti. 58% des poules pondeuses dans le monde sont en cage, des chiffres donnés par la L214. Donc aujourd'hui, l'actu international va porter sur la L214 et sur un site qui a été créé par différentes associations qui se sont concertées et qui agissent pour réduire l'élevage de poules pondeuses en cage dans le monde. Donc ce site s'appelle Open Wing Alliance. 50 pays sont concernés, Canada, États-Unis, Europe, Australie. Dans ces associations concernées, on a des associations d'Afrique comme Animal Voice, Human Africa, des associations d'Asie, Animal Nepal, Animalia pour l'Europe, L214 évidemment, Animalia ou Liberalliance pour l'Océanie, on a Equality pour l'Amérique du Nord ou encore l'ARBA pour l'Amérique du Sud. Donc pourquoi ces associations se réunissent et agissent dans 50 pays dans le monde pour engager les industriels à réduire l'élevage des poules pondeuses dans les cages. Donc voilà, au niveau de la France, la L214 et d'autres associations sont engagées avec le groupe Avril. Est-ce que vous connaissez le groupe Avril ?
Pas du tout.
Eh bien, le groupe Avril, c'est 3,5 milliards d'œufs distribués par an. C'est le premier producteur d'œufs en France, en fait, le groupe Avril. Et donc, le groupe Avril a travaillé avec Open Wing Alliance pour s'engager à réduire le nombre d'élevages pour les poules pondeuses en cage. Donc, évidemment, on ne s'arrête pas aux producteurs. La L214 et ses autres associations travaillent aussi avec la grande distribution. Leclerc, Intermarché, Carrefour, mais pas que, avec Sodexo aussi, pour que les associations, la grande distribution et les éleveurs s'engagent tous dans une démarche de réduction et de meilleur traitement des animaux pour l'élevage, pour la production des œufs. Voilà, donc il s'agit d'un engagement dans le cadre de l'amélioration des conditions d'élevage. La L214, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la L214. Sinon, vous pouvez aussi retrouver les informations que je viens de vous citer sur le site Open Wing Alliance, donc O-P-E-N, plus loin Wing, W-I-N-G, plus loin Alliance A-2-L-I-A-N-C-E. Vous cliquez sur L214, animation, et là vous allez voir aussi, pour la L214, vous pouvez participer à diverses animations. C'est pas que du militantisme de terrain, c'est aussi du tractage, de la participation aux ateliers. Ça, c'est l'actu internationale et c'est une très bonne nouvelle. Donc, pour l'actualité nationale, nous allons évoquer une autre association qui s'appelle VRAC. VRAC signifie « Vers un réseau d'achat en commun ». C'est Boris Tavernier, le président de cette association, qui a été fondée en 2013. Et donc, cette association, elle est née à Lyon. Aujourd'hui, c'est un réseau qui s'étend de Lyon à Strasbourg, en passant par Bordeaux et plus récemment Toulouse et Paris. Donc, cette association, elle vise à promouvoir le monde rural et les acteurs locaux, les producteurs, les éleveurs, pour faire du lien avec la ville. Donc, elle a été lauréat, elle a reçu le prix PNA en 2018-2019. Le concept est simple, une fois par mois, là je vais prendre Lyon, une fois par mois, à Vaux-en-Velin, le centre social ouvre ses portes pour créer une épicerie éphémère et récupérer les commandes passées 15 jours auparavant par les Lyonnais, des commandes un petit peu dans la lignée des AMAP. En fait, l'idée, c'est de faire travailler les producteurs locaux alentour. Donc tous les mois, les habitants sont participatifs, ils participent à la réception de la marchandise, au reconditionnement. C'est du bio, c'est du local, c'est équitable. Les partenaires sont des apiculteurs, des producteurs, des fromagers, des éleveurs. En moyenne, c'est 1300 commandes par mois. C'est ouvert à tous, c'est sans condition de ressources. Et pour Lyon, pour vous donner un chiffre, sur le secteur de Lyon, c'est déjà 1200 adhérents. Donc c'est une belle réussite. Et pour avoir un œil plus local, nous allons parler du marathon de la biodiversité. Donc le marathon de la biodiversité, on est sur sa deuxième édition. Et comme on a Fabien qui travaille pour la LPO, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu.
Alors je vais essayer de faire un bref résumé. Alors on est en fait, ça a commencé exactement il y a 3 ans. Ça c'est né en fait d'un appel à projet de l'agence de l'eau auquel on a trouvé intéressant LPO de se rapprocher de la CCSB pour du coup monter un projet commun. Donc dans ce projet il y a donc la CCSB, la LPO, Arthropologia, France Nature Environnement. Et l'objectif, c'est d'abord de recenser sur un secteur donné de la communauté de communes Saône-Beaujolais, de recenser tous les linéaires de haies, les mares, etc., de voir quel est leur état de conservation, et suivant leur état de conservation, de compléter ces haies par des programmes de replantation ou de rénover certaines mares chez des agriculteurs, chez des maraîchers, chez toutes sortes de propriétaires concernés. Donc du coup, là, on a démarré les premières actions de rénovation de mares cette année, concrètement. Donc voilà, l'affaire continue, elle est en cours. Donc l'objectif, on est autour de 42 mares à créer et près de 42 km de haies à planter. Voilà. Donc c'est un projet quand même assez ambitieux et qui est totalement dans l'air du temps avec la disparition des haies auparavant.
C'est un très beau projet.
Merci.
Et maintenant, la pause musicale présentée par notre invité.
Eh bien, on va se lancer sur un titre assez vieux, Renault, et Déserteur, ce serait bien.
Parfait.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi. Dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con. Je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Président, je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt. J'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. surtout, ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Mais qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Les Russes, les Ricains font péter la planète. Moi, j'aurais l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Alors me gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
Les écolos, les écolos en cavalcade.
Rebonjour, vous êtes sur Les Écolos en cavalcade, sur le 100.9. Du coup, on vient d'écouter Renaud, le morceau choisi par Yvan. Donc, Yvan, rebonjour.
Rebonjour.
Content de t'avoir parmi nous. On se connaît un petit peu, bon ça faut pas trop le dire, mais on s'est déjà rencontrés. Mais je vais laisser Yvan se présenter. Qui es-tu?
Alors, je pourrais dire beaucoup de choses. L'idée, c'est de dire que je suis un paysan, c'est-à-dire que j'ai cherché à m'installer. J'ai fait des études agricoles dans les années 90, au siècle dernier. J'ai cherché à m'installer à l'époque. C'était compliqué parce que j'étais pas fils d'agriculteur. Donc, c'était l'époque où j'ai été objecteur de conscience, d'où un peu le titre qu'on a écouté tout à l'heure sur le pacifisme et l'idée de refuser l'armée. Du coup, je me suis tourné vers le médico-social, c'est le métier que j'exerce actuellement. Et puis, j'ai eu l'opportunité, avec ma compagne de l'époque, d'acheter une ferme à un moment. C'était en 2012. Et sur cette ferme, on avait trois projets. Le premier projet, c'est de créer un emploi. Et le deuxième, c'est principalement de sauvegarder les races anciennes qui existaient au siècle dernier, à l'époque où on n'avait pas besoin de produits phytosanitaires pour élever des animaux. Voilà. Et puis le troisième projet, c'était d'essayer de mettre sur cette ferme un maximum de biodiversité face à cet effondrement qu'on constate tous les uns et les autres de ce nombre d'animaux, d'espèces qu'il y a dans nos campagnes.
Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce qui m'a poussé aussi à venir toquer à ta porte, c'était de savoir... effectivement, tu n'es pas dans une agriculture dont on entend beaucoup parler, on n'est pas sur du conventionnel, on est sur, tu prends en compte, je dirais, des choses que beaucoup ne prennent pas en compte, ou en tout cas ce qui se dit par les médias, et je trouve qu'on n'entend pas assez ces agriculteurs, enfin ces paysans qui justement prennent en compte, qui ont une éthique en termes de prise en compte du vivant, pour qui la biodiversité compte et fait partie de leur activité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette approche que moi j'ai beaucoup retrouvée dans ton activité?
Alors pour commencer, il faut se dire qu'on suit les principes de la Confédération paysanne, c'est-à-dire de l'agriculture paysanne. Ça sous-entend que sur une petite surface agricole, en l'occurrence 22 hectares, hein, c'est petit, la moyenne en France des agriculteurs, c'est d'exploiter à peu près une centaine d'hectares. L'idée, c'est sur une vingtaine d'hectares de pouvoir tirer un revenu. Pour ça, il faut favoriser des circuits qui sont les circuits courts, qui sont la vente directe, qui sont ce genre de choses, et pouvoir s'appuyer sur des animaux pour lesquels on aura besoin de très peu de traitements, voire pas de traitements phytosanitaires. Et ça, c'est possible avec des races qui étaient élevées il y a longtemps. Donc actuellement, sur la ferme, il y a une dizaine de vaches Highland Cattle qui viennent d'Écosse. C'est la race la plus ancienne au monde. Hein. Depuis que l'Auroch a disparu, c'est la race qui était élevée à l'Antiquité par les Vikings. Donc une race qui est faite pour être en plein air intégral, qui est faite pour résister aux rigueurs climatiques, qui est faite pour résister à beaucoup d'humidité. Et à Montsol, l'endroit où je vis, est un bon exemple de ce type de relief, de ce type de climat, de ce type de rigueur. Voilà. Pour les chèvres, c'est pareil. Au lieu d'élever des alpines chamoisées, qui sont une race très intéressante, hein, nous, on a préféré privilégier des chèvres comme les chèvres des Pyrénées ou les chèvres du Massif central, qui sont des races beaucoup plus rustiques, moins productives, mais qui sont bien adaptées au milieu dans lequel on se trouve. L'idée des races anciennes, c'est vraiment de se dire que depuis le Moyen-Âge, on n'élève pas les mêmes races de chèvres quand on habite en milieu aride méditerranéen, que lorsqu'on habite en montagne, que lorsqu'on habite au nord de la France. Vraiment, pour chaque région de France, il y avait 100 départements, ou il y a toujours 100 départements, il y avait 100 races de vaches différentes auparavant. Aujourd'hui, on a uniformisé tout ça. On a créé des conditions d'élevage industriel qui permettent d'artificialiser les sols, les modes d'élevage, et du coup, de se cibler sur des races dont la productivité est plus intéressante. Ça a pu être intéressant à un moment. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous y reviennent, et les consommateurs reviennent de ce genre de choses.
Et tu parlais tout à l'heure d'intégration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ?
En France, l'accession à la propriété est quand même très encadrée par un organisme qui s'appelle la SAFER et qui ne valide pas tous les projets agricoles. Et lorsqu'ils sont un peu alternatifs, je trouve que c'est pas facile de s'installer. Et en l'occurrence, le projet que j'ai défendu, alors la SAFER m'a permis de m'installer, mais sur une exploitation qui est jugée comme étant plutôt difficile. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de 500 mètres d'altitude, donc on est en zone de montagne. On est sur des parcelles qui sont particulièrement en pente, avec beaucoup de marécages et beaucoup d'eau, ce qui peut sembler compliqué pour l'agriculture classique, conventionnelle, ce qui est idéal pour des races de type Highland, c'est-à-dire des animaux qui vivent à des endroits où il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de relief. Les Highlands, les hautes terres d'Écosse, sont un relief qui est identique à celui que j'ai à Montsol. Et donc, ça se prête à ce genre d'agriculture.
Je confirme, j'ai mis les pieds, c'est humide. est-ce que tu voulais,
Élodie ? J'ai une petite question. L'éco-pâturage se développe pas mal. Toi qui as des chèvres, on sait qu'il y a des endroits en Nouvelle-Zélande, dans le sud de la France, ils utilisent les canards pour faire de l'éco-pâturage. On voit dans certains endroits l'éco-pâturage se développer dans les milieux viticoles, en fait, pour les vignes. Ça permet d'aérer les sols, ça permet d'enlever les mauvaises herbes directement à la racine. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais développer ?
C'est quelque chose que je pratique.
Ah, c'est très bien.
Je le fais avec les moutons. Aujourd'hui, il m'arrive de prêter à des particuliers qui veulent entretenir un verger, qui veulent entretenir un pré qu'ils ont et dans lequel ils ont plus envie de passer le micro-tracteur, le tracteur autoporté. Je prête des moutons à ces personnes et je les récupère. Voilà. En général, je prête les animaux au printemps quand il y a une pousse assez importante, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au mois d'août. En août, il faut bien penser à ce que les animaux aient bien de l'eau tous les jours. Tout ça, ça peut être compliqué avec la sécheresse. Donc, je récupère les animaux. Et en général, au mois de septembre, quand il y a une repousse, je reconfie les animaux et je les récupère quand on est au 15 décembre et qu'il faut donner du foin. L'idée, c'est vraiment que les gens aient quelque chose de pratique. Mais pour ça, il faut vraiment que les clôtures soient nickel.
Voilà. Merci.
Je vais me permettre une toute petite remarque sur le terme « mauvaise herbe ». Je sais que tu n'as pas fait exprès, mais alors moi, ça, je ne peux pas résister. Mauvaise herbe, c'est un concept, c'est subjectif. Moi, je suis tatillon là-dessus parce que tout simplement, j'ai plutôt envie qu'on parle de vrai en disant on parle d'herbe indésirable. Et du coup, pour moi, c'est super important parce que clairement, les mauvaises herbes, en fait, ça n'existe pas. Ça dépend pour qui. du coup, j'aurais aussi aimé, Yvan, que tu nous parles d'une action concrète que tu as pu mener récemment, j'ai entendu dire. vous allez comprendre pourquoi on rigole. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Eh ben, l'idée, c'est que quand on est sur sa ferme et qu'on y est seul ou à quelques-uns, enfin en très peu d'effectifs, c'est difficile de tout faire et d'aller jusqu'à l'endroit où on voudrait aller. Moi, j'ai accédé à une ferme sur laquelle la plupart des haies étaient remplacées par des piquets. Et puis, voilà. Donc, j'avais le souhait qu'on puisse un jour replanter toutes ces haies. Et en te rencontrant, on s'est dit que c'était possible. Et donc, il y a eu un chantier collectif sur la ferme qui nous a permis de creuser une mare de 10 mètres de diamètre, de planter 30 mètres de haies pour l'instant, et je pense que c'est qu'un début, et de poser 5 nichoirs à hirondelles. Je pense que là aussi, c'est qu'un début. J'ai envie de ce genre de projet. Il m'a semblé que les gens qui étaient réunis ce jour-là étaient vraiment très contents de cette journée. On était 30, hein. On est une bonne trentaine.
Ouais, moi, je pense une bonne trentaine, ouais.
Et c'est à réitérer, quoi.
Ouais, moi, pour donner mon avis aussi sur cet événement, parce qu'on peut parler d'un petit événement, parce que c'est effectivement le début, je pense, de beaucoup d'autres actions. Mais c'est vrai que ça a brassé pas mal de monde de différentes provenance, avec différents objectifs, et ça a été très humain, et en même temps il y a eu beaucoup de concret, beaucoup de réalisations, et moi je pense que c'est vraiment un début. On va en profiter peut-être pour lancer un message aux agriculteurs éventuellement qui nous entendent, ceux qui ont le souhait éventuellement de mener à bien des actions comme celle qu'Yvan a évoquée, je vous propose de nous laisser un message sur pourquoi pas le site de la radio ou sur le Facebook des écolos en cavalcade. N'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire voilà, j'aimerais me lancer dans une aventure comme ça. Et en plus, ce qui est intéressant, Yvan, si tu peux nous en parler aussi, c'est pas ce qui nous a coûté le plus cher cette journée.
Non, c'est vrai qu'en faisant appel à la solidarité de tous, c'est-à-dire que les uns sont arrivés avec leurs pelles, les autres sont arrivés avec leurs arbres, les autres ont porté du grillage, il y en a qui ont porté des piquets, arrivés au final, ça ne nous a rien coûté. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'acte, je dirais militant, c'est que c'était festif.
C'est clair.
Je crois que voilà, on s'est surtout bien bien amusé. À la fin, tu as raison, c'était du très concret.
C'était du très concret. Eh bien, écoute, je te remercie. Et je voulais, donc du coup, on va passer à une autre petite étape.
Un jeu.
Un petit jeu, une petite devinette, on va dire. C'est l'info pas si bête. Alors, pour la petite information, l'oiseau qu'on vient d'entendre, parce que oui, c'est un oiseau, c'est une chouette-hulotte. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la chouette-hulotte, en ce moment... Yvan pourra vous en parler parce qu'il est dans un milieu proche forestier, très forestier. Et la chouette-hulotte, c'est la période où elle chante. C'est la période de repro qui démarre, enfin du moins la période de chant. Et du coup, les mâles sont plutôt à fond. Donc on les entend pas mal. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Alors, l'info pas si bête, ça va être deux petites infos. Alors, si je vous dis chouette et frais, une autre chouette. Si je vous dis chouette et frais, que je vous donne un chiffre de 5000... et que je vous demande un lien avec l'agriculture, est-ce que vous faites un lien?
5000, chouette et frais, agriculture.
Ouais.
Le lien.
Est-ce que vous avez quelque chose? Alors, je vous donne un autre indice. L'idée, c'est de parler de service rendu.
Donc, la chouette et frais doit être un prédateur qui doit peut-être nous débarrasser d'un nuisible?
Alors, tout à fait. Alors, attention aussi avec le terme nuisible. Je suis super embêtant.
Ils ont 5000.
On va lancer des coups de poing partout. Alors, pas entre nous, pas de ça entre nous. Mais en gros, l'idée, c'est... Yvan, non, tu avais une petite idée aussi?
5000 campagnols par an.
Exactement. Alors, en fait, la chouette est frais. Donc, quand on parle de services rendus à l'agriculture, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ça, c'est le nom qui pique un peu. Mais les services rendus par cet animal, en fait, c'est près de 5000 rongeurs consommés par un couple avec ses poussins. Donc, globalement, c'est pour une nichée, ce qu'on appelle une nichée sur une saison. C'est près de 5000 rongeurs. Un autre chiffre, donc du coup, je vous lance pas la devinette parce que vous trouverez, c'est entre 3000 et 6000 campagnols terrestres pour le renard. Donc le renard, lui, c'est un autre animal qui rend des services à l'agriculture. Et c'est même aller encore plus loin, selon une étude de Dennis Richard Blackburn, oui, c'est ça, qui en fait a mené une étude sur justement les services rendus sur les régimes alimentaires, notamment du renard. Et... Il parle même de l'équivalent de 2400 euros par agriculteur d'économiser s'il conserve la présence du renard. Donc c'est quand même pas rien, tout simplement parce que le renard roux donc, est un gros prédateur de ce campagnol. Vous savez justement que le renard, c'est pour ça que j'ai tiqué sur nuisible, est considéré comme un animal pouvant occasionner des dégâts. Le terme de nuisible a changé pour ce terme, donc pouvant occasionner des dégâts. Et c'est un animal pourtant qui rend d'énormes services à l'agriculture. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Est-ce que Yvan, toi, tu observes un peu de renard sur...
Oui, il y a pas mal. La chouette, tu l'entends longtemps chanter. Le renard, il est présent. Alors je dirais, j'ai des poules et j'ai pas de problème avec le renard. Hein, c'est vrai que plus on fait de la polyculture élevage, c'est-à-dire si on a des ânes, des chèvres, des moutons, des vaches, plus le renard il s'approche pas des habitations. Donc je vis en cohabitation avec ce genre d'animaux. Et puis puisque tu parlais du bénéfice de ce qu'on peut faire au niveau de la biodiversité pour les agriculteurs, je te dirais que les haies que nous avons plantées, l'ombre qu'elles apportent permet vraiment aux animaux, surtout avec les périodes de sécheresse qu'on connaît particulièrement ces deux dernières années, permet vraiment aux agriculteurs d'avoir un bénéfice très concret.
Clairement, là, pour reprendre les chiffres, là, je vous parlais de 2400 euros de gains, on va dire, par rapport à la destruction si on n'avait pas de renards et du coup de la destruction suite aux dégâts occasionnés par le râteau-pied qu'on appelle le campagnol terrestre. Un individu, c'est 50 kilos de végétaux consommés par an pour un petit campagnol terrestre. Donc, sans prédateurs, on fait l'addition et c'est vite... C'est vite impressionnant. Donc voilà, c'était notre petite info pas si bête.
Chouette alors.
Je rebondis sur l'information très intéressante de Yvan et quand elle vient d'un agriculteur, enfin d'un paysan, elle est d'autant plus importante parce qu'on parle de quelqu'un qui est sur le terrain aussi. Et le renard, clairement, il y a d'autres solutions pour éviter la destruction dans les poulaillers. Tout simplement, bien connaître l'animal, savoir quels dispositifs on peut mettre en place, des dispositifs qui ne sont pas forcément d'ailleurs des clôtures électriques, à moindre coût. On en parlera éventuellement dans une prochaine émission. Est-ce que tu veux lancer un petit appel pendant qu'on y est, avant qu'on passe à la suite et qu'on te remercie ?
Pourquoi pas, hein. Je ne sais pas à quel appel je pourrais lancer. Ce que je sais, c'est que je pourrais dire que vous êtes les bienvenus à la ferme, que vous soyez des auditeurs, que vous soyez membre de la LPO ou simple particulier. L'expérience qu'on a vécue l'autre jour est à refaire et je serais ravi d'accueillir qui est intéressé pour planter plus de mètres de haies, pour creuser plus de mares ou pour accueillir davantage d'oiseaux ou de biodiversité sur la ferme.
Donc tous ensemble dans le marathon de la biodiversité.
À fond.
Ah ouais, carrément, et tous chez Yvan, quoi. Merci Yvan.
Les écolos en cavalcade.
Et maintenant, parlons initiative locale. Donc là, je vais vous parler d'un zèbre qui fait partie de Bleu Blanc Zèbre. Il s'agit de monsieur Alain Delangle, qui est un paysan de Normandie et qui a créé une association qui s'appelle Campacity. Donc Campacity, c'est quoi ? Elle a été créée en 2018. L'objet est issu d'un constat. Le monde rural et le monde urbain sont éloignés. On le voit avec les différents événements, les manifestations, l'écart des mentalités. Donc en fait, dans le temps, il y avait des liens familiaux entre le monde rural et le monde urbain, par les cousins, par les oncles, mais dû à l'exode rural, il y a plus de contact en fait, moins d'attachement au monde rural. Donc l'idée de Campacity, c'est de créer du jumelage entre les villes et les villages. Donc monsieur Alain Delangle est issu du village qui s'appelle Frembault. Frembault, c'est en Normandie, c'est 560 habitants et actuellement jumelé avec Paris, le 18e arrondissement, grâce à une adjointe de la mairie de Paris, Madame Antoinette Gull, qui a bien accepté de lancer ce projet. C'est un projet pilote, c'est en cours actuellement, ça fonctionne. Donc plusieurs terrains d'action, l'éducation, le partage d'événements et la coopérative économique. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est une grande première et l'idée de jumeler des petits villages avec des grandes villes, c'est aussi une façon de remettre du lien et de promouvoir le monde rural. Donc Alain Delangle, l'association Campacity, vous pouvez le découvrir sur le site campacity.fr, sinon joindre monsieur Delangle au 06 15 20 10 24 pour se renseigner sur cette initiative pilote qu'on espère bien pouvoir reproduire sur le territoire national.
Les écolos, en cavalcade.
Eh bien écoutez, l'émission est terminée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des écolos en cavalcade. Vous pouvez retrouver l'émission donc sur les podcasts de calade.fr ou encore sur la page Facebook Les écolos en cavalcade. Et bien sûr, nous écouter sur 100.9 Calade.
Eh bien, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Les écolos en cavalcade.